salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Pulse 90 FM et je suis actuellement en interview avec Alexandre Grandeau. Comment tu vas?
Bah écoute, je vais bien, toujours bien quand je suis reçu chez vous, hein. Ça fait plaisir.
Ah bah ça fait plaisir ce que tu nous dis aussi. Donc pour te présenter un peu, on a eu déjà eu l'occasion de t'interviewer pour la sortie du tome 4 de Génération H ici et maintenant. Et tu nous parlais alors d'une surprise qui arrivait pour Noël. Et cette surprise elle est sortie, c'est Bob Marley, un héros universel. Non, exactement, on l'attendait. Elle est là. Et donc maintenant, on va parler de cette sortie. La Lune sur le Toit, c'est ta maison d'édition.
Il va falloir savoir si c'est une bonne surprise maintenant ou une mauvaise.
Et voilà, et justement, l'interview est faite pour ça. Elle est faite pour ça. On va un peu en parler. Voilà. Et donc, selon tes propres mots, c'est un nouvel éclairage moins personnel mais plus universel sur Bob Marley. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'angle choisi pour cette biographie qui n'en est pas vraiment une?
Oui, bien sûr. Alors en fait, Bob Marley, un héros universel, c'est un livre sur le Tuff Gong, mais qui n'est pas un livre habituel, puisque habituellement, même dans quasiment 100% des ouvrages, Bob Marley est traité de manière chronologique. En gros, voilà, il est né à tel endroit, en telle année, jusqu'à sa mort, il s'est passé ça. Et souvent, c'est des documents, des livres vraiment très bien documentés, mais il n'y avait aucune raison. Ceux qui sont bien, ces bouquins, je pense à notamment au bouquin de Dordor qu'il a sorti il y a 3 ans, au bouquin de Roger Stephens, bon voilà, ils ont tous un peu le même angle. Et moi, mon angle est vraiment différent, puisque je voulais remettre Bob Marley dans son époque, dans son temps, le comparer avec d'autres personnages qui sont entrés dans l'histoire universelle de l'humanité. Je pense à Gandhi, à Mohamed Ali, je pense au Che Guevara, je pense même à Don Juan, Casanova, à Pelé, voilà, à Malcolm X, à Martin Luther King. L'objectif de ce livre, c'était vraiment de montrer comment et pourquoi Bob Marley était rentré dans la conscience collective internationale, quelles valeurs avaient poussé les gens à adopter Bob dans leur famille, et d'ailleurs à l'appeler Bob. Il y a peu d'artistes qu'on appelle par leur prénom et on sait toujours qui c'est. En général, c'est Elvis, Michael et Bob, tu vois, et donc il y a très très peu d'artistes qui sont comme ça, comme au football, quand on dit Diego, tu vois, on sait exactement qui c'est.
Exact.
Et donc voilà, je voulais montrer à quel point et comment Bob était rentré chez tout un chacun, qu'on soit parisien des beaux quartiers, brésilien des favelas, ou qu'on soit indien des bidonvilles de Bombay, quoi. En fait, Bob est tout le temps là, et ça m'intéressait de comprendre pourquoi il était là et pourquoi son message résonnait 40 ans après sa mort encore.
Ok. De mon côté, j'ai fait aussi une petite recherche. J'ai bien pu comprendre que ça a mis du temps à sortir ce livre. Et il y a eu pas mal de sources quand on regarde à la fin du livre. Comment s'est effectué justement ce travail de recherche, de réflexion et d'écriture?
Alors c'est vrai que pour réaliser un tel travail, il faut quand même pas mal de... Il faut du temps. J'ai pensé au concept du livre, pour être tout à fait honnête, en 2002-2003. J'ai commencé à travailler dessus à ce moment-là, en voyant comment on pourrait apporter un angle original. Et puis après, entre-temps, voilà, il y a 15 ans de travail, de recherche, de voyage en Jamaïque, en Angleterre, de rencontres avec des artistes comme Bunny Wailer, avec Stéphane Marley, avec Imani, avec toute la famille. Avec Julian en Côte d'Ivoire. Et donc, de fil en aiguille, avec les références, les rencontres, à un moment donné, j'étais prêt. Je me suis dit, c'est bon, on peut y aller. Et voilà, c'était il n'y a pas longtemps, parce qu'il est sorti à Noël.
Il y a aussi une petite nouveauté dans vos livres, c'est que cette fois-ci, il est un peu illustré, et notamment par les photos d'Adrian Boots. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce grand monsieur?
Ah oui, alors, c'est vrai que, moi, j'ai sorti deux beaux livres. Les Reggae Ambassadors, la légende du reggae et 100% reggae français. Donc c'est des livres qui étaient vraiment très beaux, très illustrés et tout. Mais là, on voulait retourner, et qui était un peu cher, et on voulait retourner sur un format qui était un format
livre de poche.
Accessible, moins cher, mais en même temps, on voulait pas sortir un livre sur Bob sans des belles photos. Et qui a fait les plus belles photos sur Bob, en tout cas selon moi? Adrian Boot, qui est un photographe reconnu au niveau international, pour des photos qu'il a fait d'artistes sur la scène rock alternative, d'artistes world, et donc de Bob. Donc on a pris contact avec lui, on lui a présenté le projet, et puis on a acheté les droits pour ses photos, et on a inséré 10 belles photos dans le bouquin, une par chapitre. Walking up the street, they say we're going wrong.
parle de chapitres, et quand on regarde le plan du livre, on voit qu'il y a plutôt les chapitres avec le côté un peu noir de Bob Marley. Enfin, j'entends noir, par exemple, il y a tout ce qui était la caricature d'un rebelle, tout ce qui était message lissé, manipulation de son image. C'est un peu novateur, je trouve, de commencer par ce qui va mal quand on veut parler d'un artiste. Après, avec des
armes. Moi, je voulais mettre les pieds dans le plat, et puis ouais. Les gens qui me connaissent et qui suivent mon travail, ils savent que je mets les pieds dans le plat. Et donc, la réalité, c'est qu'en 2020, Bob Marley est un outil marketing plus que un outil de réflexion. En tout cas, il est présenté comme ça. On achète des chaussettes Bob Marley, des cendriers Bob Marley, des casquettes Bob Marley, de l'herbe Bob Marley, des nuits d'hôtel Bob Marley, tout ce que tu veux. Donc, j'avais pas envie d'occulter ça. J'avais pas envie de poser la question de l'héritage. Et puis Bob Marley, c'est pas non plus ce quand je dis que c'est pas un livre chronologique ni hagiographique, c'est ce que je veux dire. C'est pas un fan de Bob Marley qui a écrit un livre sur Bob Marley en disant à quel point il aime Bob Marley. Ce que j'ai voulu faire, c'est un travail rigoureux, scientifique, et avoir une démarche où il y avait un positionnement critique sur pourquoi Bob Marley, quelle est la vision qu'on a aujourd'hui de lui, est-ce que son message a été trahi, est-ce que le fait que sa famille ait signé un contrat de fabrication de produits dérivés sur de nombreuses années et qui permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est bien ou c'est pas bien, et voilà, je voulais poser ces questions-là. C'est des questions qu'on a rarement l'occasion de traiter. Il y a une sorte d'aura bienveillante sur Bob, et puis en même temps, je voulais dire d'autres choses qui étaient des réalités. Bob, c'est quelqu'un qui est né dans le ghetto, donc qui avait autour de lui des voyous, des gens qui étaient méchants, des racketteurs, des gars, patibulaires. Et puis c'était pas que ça, il avait des côtés obscurs et j'ai voulu explorer ça. Après, comme tu dis, c'est la moitié du bouquin ou une partie du bouquin. Il y a toute une autre partie du bouquin qui est sur la réflexion autour de ces morceaux, des thèmes, des engagements qu'il a eu sur le panafricanisme, la relation la relation mystique à la ganja ou aux femmes, etc. Et au football, bien sûr.
J'avais une autre question, du coup, qui suit celle-là. C'est que la direction artistique de Chris Blackwell, est-ce qu'elle n'a pas joué un rôle finalement dans ce lissage et la récupération de l'image de Bob Marley, puisqu'on sait que quand il va chez Chris Blackwell, ça commence à être un reggae pop-rock plus qu'un reggae jamaïcain au sens d'où on l'entend, quoi.
Ouais, mais si tu veux, ça, c'est un peu la position de LKJ à l'époque qui explique à tout le monde que Bob Marley, c'est quelqu'un qui en fait pervertit le mouvement reggae, tu vois. Donc, LKJ, il a beau être talentueux, avoir des super textes, il s'est excusé depuis et il s'est dit qu'il avait rien compris. Il a reconnu qu'il avait rien compris. Bob Marley, c'est quelqu'un qui fait de la musique. Donc, il fait du reggae. Chris Blackwell, c'est son producteur. Il lui propose des arrangements. Bob les accepte. Qu'est-ce qui fait que la différence? Est-ce que Bob Marley aurait dû rester dans son pays à chanter des chansons pour son peuple qui était très content de l'avoir? Et c'est tout. Ou alors, est-ce qu'il pouvait être pragmatique sans se pervertir et diffuser ses paroles et ses valeurs partout dans le monde? Donc, Chris Blackwell, c'est un mec qui faisait du business. Producteur, il a fait son travail et Bob lui demandait de faire son travail. Moi, je pense que Bob était très content du fait que ça soit devenu un artiste international et je pense que Blackwell a joué un rôle là-dedans. Après, on peut toujours critiquer la démarche marchande de Chris Blackwell, mais on n'a jamais demandé à un label d'être une œuvre de charité. Donc Bob a gagné quand même beaucoup d'argent avec Blackwell. Les Wellers un peu moins, et c'était dommageable. Peter, d'ailleurs, en voulait beaucoup à Chris Blackwell. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps, Chris Blackwell a fait la fortune de Bob. Donc, si tu veux, Chris Blackwell a quelque part, je dirais pas forcément aseptisé ou vulgarisé, mais en tout cas, je pense qu'il a démocratisé le reggae à travers les albums de Bob. Donc, d'une certaine manière, la plupart des gens qui aujourd'hui écoutent du reggae dans le monde, c'est grâce à Bob Marley et grâce aussi à Chris Blackwell d'une certaine manière.
D'accord. Justement, pour rebondir.
J'aime bien me faire l'avocat du diable.
Non, mais il n'y a pas de souci, c'était juste pour avoir ton opinion justement là-dessus. Donc, en matière de musique, Bob Marley, il suivait un peu les tendances. On a vu chez lui d'abord apparaître du ska chez Leslie Kong, chez le label Beverly's Records. C'est passé aussi au reggae pop rock, on en parlait avec Chris Blackwell sur Island Records. Il a aussi eu un petit titre avec Punk Reggae Party, donc une période reggae punk britannique. Un peu, il a récupéré un peu ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il aurait pu faire un peu une sorte de dance hall pour justement avoir un public plus large?
Ah, moi je suis persuadé, c'est un peu l'exercice auquel je me livre dans l'épilogue, en imaginant que Bob n'est pas mort et qu'il a survécu. Je suis persuadé que Bob aurait été une superstar du dance hall, qui se serait approprié ce style-là et que même je pense qu'il aurait participé à la révolution hip-hop et qu'on aurait pu le trouver également sur l'intégration de sons plus électro. Je pense que le Tuff Gong était quelqu'un d'ouvert d'esprit musicalement à l'artiste. Parlant. Je pense que c'était quelqu'un voilà, qui était curieux de tout, de tous les styles, de tous les genres. Et je pense qu'il aurait, probablement fait fusionner son reggae avec d'autres influences.
Ça a été une sorte de Buju Banton Beast, du coup, aujourd'hui.
L'homophobie en moins. Et les 10 ans de prison pour trafic de cocaïne en moins aussi.
J'avais vu aussi un côté où vous critiquez un peu, de manière neutre, mais tout de même, il y a eu une petite critique sur ce que faisait l'héritage de la famille Marley. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Dans le livre, en fait, je pose une question. Je dis, jusqu'à où a-t-on le droit d'instrumentaliser le nom d'un artiste avec la vente de produits qui vont... à l'encontre de la philosophie et des valeurs qu'il promouvait dans le monde. C'est la question que je pose, quoi. Et après, c'est chacun qui fait son libre arbitre. Moi, je dis juste que ça me fait mal au cœur qu'il y ait du papier toilette, Bob Marley, tu vois.
C'est sûr.
Parce que les gens se torchent le cul avec du papier chiotte Bob Marley, je trouve ça quand même fort de café, tu vois. Et là, pour le coup, je sais pas si ça existe, mais c'est sûr que ça existera un jour. Ils sont capables de nous sortir ça. Donc, moi, la question que je pose de manière directe et frontale, c'est, voilà, jusqu'à où a-t-on le droit, pour des motifs d'argent, d'instrumentaliser, de récupérer le message d'un artiste. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feels fine. So don't treat me like a puppet on a string.
On va se diriger vers la fin de l'interview. Maintenant, je vais te demander si tu avais l'opportunité de travailler sur notre projet, ça serait quoi en ce moment? Est-ce que tu travailles sur quelque chose de nouveau?
Tu crois que je vais te donner des scoops à chaque fois?
Ouais, j'aimerais bien.
Mais là, je travaille, tu vas avoir un scoop, puisque je travaille sur la compilation qui va être offerte avec le bouquin dont j'ai pas du tout parlé nulle part. Les lecteurs savent pas encore qu'on leur réserve un cadeau. On leur réserve un très beau cadeau, puisque on leur a enregistré quelques morceaux en hommage à Bob et qu'on va commencer à les diffuser à partir du mois de février.
J'invite,
donc tu vois, t'as ton scoop.
J'invite les auditeurs et les auditrices à suivre Alexandre Rando sur les réseaux sociaux, mais aussi la page Team Génération H pour avoir justement ces informations. Si tu aurais trois livres à conseiller à nos auditeurs, ça serait lesquels?
Si j'avais trois livres à conseiller, ouais. Tout style confondu?
Tout style confondu.
Je vais dire dans le désordre, mais alors parce que c'est un peu en rapport avec ce que j'ai fait, je conseille l'autobiographie du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, qui est franchement et mémorable. Vraiment dans le style rock'n'roll et tout, je le conseille, c'est vraiment long mais c'est cool. Dernièrement, j'ai lu un bouquin de Johan Zarka qui s'appelle Braquage Sauf Samouraï. Donc ça, c'est si vous voulez lire un bouquin écrit dans un argot à la Audiard et où vous tapez des barres de rire vraiment très souvent. Et puis un troisième bouquin que je pourrais conseiller, vu que c'est l'année où on célèbre les 60 ans de la mort de Camus, je conseille à tous de lire et relire les ouvrages de Camus qu'on nous a inculqué mal au lycée mais qui en fait se révèlent toujours bien. Donc lisez La Peste, L'Étranger, L'Homme Révolté pour ces périodes de gilets jaunes, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à lire chez Camus.
D'accord, le message est passé. Si tu pourrais choisir un titre de Bob Marley pour finir l'interview, lequel serait-ce?
Si j'avais un morceau que j'aimerais écouter maintenant, je dirais que c'est... je t'en donne trois, comme ça te laisse le temps de trouver dans ta box. C'est Forever Loving Ja, Waiting Then et Pimper's Paradise.
Voici la fin de l'interview. C'était Alexandre Rando pour la sortie de son livre, Bob Marley, un héros universel.
Pas encore mon album, heureusement.
Non,
que je
à bientôt, on l'attend. On l'attend. C'était Bob Marley, Aéro Universel sur l'édition La Lune sur le Toit. Merci Alexandre et peut-être à une prochaine fois.
J'espère bien. Big up à vous tous et bonne soirée. She left the party. Have a good time. She lives so hard to feeling fine. She left a smile.
sometimes shifting tone. She be laughing when there ain't no joke. A famous paradise, that's all she wants now. A famous paradise, that's all she wants. A famous paradise, that's all she wants now. A famous paradise, that's all she wants.
Every need got an ego to feed. Every need got an ego to feed.
She loves the model up in the latest fashion. She's in the scramble and she moves with passion. She's getting high, trying to fly the sky. Now she is bluesing when there ain't no blues.
Oh, famous paradise,
that's all she wants now.
A famous paradise,
that's all